Europe Matin Weekend.
Léna Aigue-Monnier.
Et on est très heureux que vous ayez choisi Europe 1 ce matin pour vous informer. Il est 8h. Le journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Il était donc bien en Belgique, comme les autorités françaises le supposaient. L'imam Hassan Iqiyoussen a finalement été interpellé hier. Bonjour Geoffrey Branger.
Bonjour.
C'est donc la police belge qui l'a retrouvé à Mons, ville située à 20 km de la frontière française.
Oui, c'est grâce au travail conjoint de la police judiciaire française et de leurs homologues belges qu'il a été arrêté chez une de ses connaissances hier après-midi. Il n'aurait opposé aucune résistance lors de son interpellation avant d'être écroué dans la soirée à Tournai. Hassan Iqiyoussen était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen lancé par la France. Le prédicateur fiché S est accusé d'avoir tenu des propos incitant à la haine et porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République. Il avait pris la fuite le 28 août dernier pour éviter d'être expulsé dans son pays d'origine, le Maroc. Une décision alors validée par le Conseil d'État. Finalement, la traque aura duré un mois.
Alors, qu'est-ce qui va se passer désormais, Geoffrey ?
Eh bien d'abord, il va falloir attendre que la justice belge remette Hassan Iqiyoussen aux autorités françaises. Ensuite, il sera jugé en France pour avoir fui et s'être soustrait à la justice. Georges Fenech, ancien magistrat.
Il comparaîtra devant un juge français qui prendra une décision. Et il encourt 3 ans d'emprisonnement. Et à l'issue de sa peine, il est remis aux autorités administratives, donc au ministre intérieur, en fait, jusqu'à son expulsion effective en destination du Maroc.
Le ministre de l'Intérieur, justement, Gérald Darmanin, satisfait de cette arrestation, explique ce qu'il se passera pour le prédicateur après son jugement en France.
Moi, je veux me réjouir que M. Iqiyoussen ait été interpellé. Nous mettrons en place des mesures administratives dès que nous le pourrons pour le mettre en centre de rétention administrative. Une place lui est d'ores et déjà réservée, puis l'expulsion vers son pays d'origine.
Une expulsion vers le Maroc, donc, qui reste à cette heure très incertaine. Fin août, le pays avait déjà refusé de l'accueillir. Selon nos informations, les négociations sont toujours en cours avec Rabat.
Les précisions de Geoffrey Branger.
Et Gérald Darmanin, qui conclut en parallèle son déplacement en Guyane.
Le ministre de l'Intérieur promet des renforts supplémentaires pour les policiers et les douaniers. 30 homicides ont été recensés en Guyane depuis le début de l'année sur fond de trafic de drogue.
Le Nicaragua, de son côté, s'isole de plus en plus sur la scène internationale.
Le pays vient de rompre ses relations diplomatiques avec les Pays-Bas, décision qui intervient alors que l'ambassadrice néerlandaise a annoncé l'abandon du financement d'un hôpital au Nicaragua. Auparavant, l'épouse du président Ortega a également indiqué qu'elle ne souhaitait pas que le nouvel ambassadeur américain entre sur le territoire. Et puis l'ambassadrice de l'Union européenne a aussi été expulsée. Elle doit quitter le Nicaragua aujourd'hui.
Et puis au Burkina Faso, deuxième coup d'État, clôt-il en 8 mois.
Arrivé au pouvoir après un putsch fin janvier, le lieutenant-colonel Damiba a son tour été démis de ses fonctions par des militaires. Les putschistes ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso, mais aussi la suspension de la constitution et la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée législative de transition.
Alors que pense le président du Comité international olympique du mondial de football au Qatar ? On l'a interrogé pour Europe 1 et sa réponse arrive dans quelques instants. A tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigue-Monnier.
8h05 sur Europe 1 et la suite du journal de Clotilde Dumay avec cette question. Faut-il ou non boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Question qui divise toujours à moins de 2 mois du début de la compétition.
Et le président du Comité international olympique apporte son petit grain de sel. Pour Thomas Barr, il faut éviter les divisions.
Notre position est complètement claire. Les grands événements sportifs, et en particulier les Jeux olympiques, sont là pour unir le monde, pas pour diviser le monde. Des boycotts sont toujours une division. Moi-même, j'ai dû souffrir d'un boycott de Jeux. J'ai dit ce qui s'est passé à l'époque, ça ne doit pas se passer aux générations futures des athlètes.
Thomas Barr, le président du CIO, interrogé par Cyril Delamorinerie et Jacques Vendroux. Le football en France et Marseille, leader provisoire de la Ligue 1. L'OM s'est imposé 3-0 sur la pelouse d'Angers pour le début de la 9e journée. À suivre cet après-midi, Strasbourg face à Rennes. Et puis ce soir, Paris qui reçoit Nice au Parc des Princes.
Et c'était le journal de Clotilde Dumay. Merci Clotilde. Valérie Darmon, quel est le programme du jour ?
Alors triste et pluvieux, sauf le long du littoral méditerranéen ensoleillé, dans une moindre mesure, sous les éclaircies entre Caen, Lille et Paris, parce que les vents et les pluies ont balayé ces régions la nuit dernière et donc elles sont en train de s'éloigner vers les régions de l'Est. Alors ce dimanche sera une journée de transition et lundi le temps va changer radicalement pour laisser de nouveau de la place au soleil et à la douceur après l'habituelle dissipation des brumes et des brouillards du matin et ça va durer au moins une semaine. En attendant, votre mercure remonte déjà avec cet après-midi 16 degrés à Dijon, à Besançon et Lons-le-Saunier, 17 à Strasbourg, 18 à Embrun, 19 à Cherbourg, 20 degrés à Troyes, à Caen, Angoulême et Lille, 21 à Paris, à Laval et à Nantes, 22 à Marseille et Toulouse, 23 à Mont-de-Marsan et Montpellier et enfin 26 à Perpignan.
Ah, c'est bien, ça s'adoucit Valérie, on est bien content de retrouver un petit peu de douceur alors qu'on était sur le point de rallumer le chauffage. Merci beaucoup Valérie Darmon, il est 8h07, d'ici quelques instants, place au débat sur Europe 1 avec aux manettes ce matin, Mickaël Dorian et puis nous on vous retrouve évidemment avec Clotilde Dumay à 9h pour un prochain journal. À tout à l'heure.
Europe Matin Weekend.
On vous souhaite un excellent réveil en notre compagnie. La suite de la matinale, c'est tout de suite avec Mickaël Dorian.
Il est 8h10, bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et Europe 1. C'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour avec bien sûr Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume.
Bonjour Mickaël, bonjour à toutes.
Ravi de vous accueillir ce matin et face à vous, c'est Najwa El Haïté qui vous a rejoint, avocate. Bonjour Najwa.
Bonjour Mickaël.
Bienvenue à vous également. Dans l'actualité de ce samedi, l'imam Hassan Iqiyoussen, arrêté en Belgique hier soir, mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis fin août et visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Selon le ministère français de l'Intérieur, il revient désormais à la justice belge de remettre l'intéressé aux autorités françaises en exécution du mandat d'arrêt. Les précisions avec Yann Effelé et on en parle juste après en plateau.
C'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française que l'imam a été arrêté. Hassan Iqiyoussen était dans les environs de la commune de Mons en Belgique. En début d'après-midi, la police l'interpelle sans incident chez une de ses connaissances.
Je peux confirmer que ce monsieur a été arrêté par la police auprès de Mons. Il a été arrêté et donc il sera transféré vers la prison. Et donc puisqu'il y a un mandat européen émis par la France, on va nous mettre en contact avec la France.
L'arrestation met fin à un mois de traque et de coopération entre la police judiciaire française et leurs homologues belges. Fin août, lorsque le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion du prédicateur, celui-ci se volatilise. Il fait alors l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Une mesure qui devrait à présent le conduire devant les autorités françaises.
Le délai maximum qu'on a observé pour un mandat européen, c'est de 1 à 2 mois quand la personne fait vraiment toutes les objections possibles et tous les recours possibles. Maintenant, tout va dépendre de l'attitude d'Iqiyoussen. S'il fait toute une série de recours, effectivement, ça peut durer quelques semaines, mais pas très longtemps. Par contre, s'il consent à sa remise à la France, ça peut être réglé en quelques jours.
L'imam Iqiyoussen devait à l'origine être expulsé de France en raison d'un discours prosélyte, émaillé d'incitations à la haine et à la discrimination. Les autorités lui reprochaient aussi une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République.
Alors Guillaume Bigot, d'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour Gérald Darmanin ?
Oh, je crois qu'on ne peut pas dire ça, non.
Ah,
non.
Et pour quelle raison ?
Parce que Gérald Darmanin, en s'en prenant à l'imam Iqiyoussen, il a voulu faire un symbole, mais peut-être même deux symboles. Il a déclaré « J'ai expulsé hors de France l'islamisme radical ». En fait, c'était un peu aller vite en besogne, c'était un islamiste radical. Alors, c'est vrai, pas n'importe lequel. M. Iqiyoussen, c'était une figure de proue de l'islamisme, notamment sur les réseaux sociaux, il était bien connu, c'est une sorte de petit Tariq Ramadan au petit pied. Mais en faisant ça, si vous voulez, il a montré que c'était absolument pas du tout préparé, son histoire. C'est-à-dire qu'il a annoncé son expulsion. Et simultanément, les forces de police n'ont pas pu se rendre, s'assurer de la personne, M. Iqiyoussen, et le mettre dehors. Donc, d'une certaine façon, le symbole s'est retourné contre lui, c'est-à-dire que l'islamiste qui devait représenter tous les islamistes s'est soustrait à la police. Le deuxième symbole que voulait marquer M. Darmanin, c'est de montrer que lui, ministre de l'Intérieur, donc l'administration, était capable, quand elle voulait agir, quand il y avait une volonté politique, de s'imposer à l'état de droit. Donc de s'imposer à tout ce maquis juridique avec des recours, etc., etc., qui fait que, finalement, quand vous voulez expulser quelqu'un, il vous glisse comme une anguille entre les doigts. Et là, Les deux symboles se retournent contre lui. C'est-à-dire que d'une part, il s'est sauvé, donc il n'était pas prêt. Qui, on pourrait dire, qui vit par la com, meurt par la com. À force de vouloir faire le malin avec la communication, si par ailleurs vous n'êtes pas prêt quand vous communiquez, il y a un problème. Et donc il y a une mise en évidence de l'inefficacité de son administration. Mais en plus, là, l'état de droit se venge. Il va d'abord se venger en Belgique, parce qu'il va y avoir au moins une semaine ou deux semaines avant un arrêté d'expulsion européen. Et une fois qu'il sera ici, on a bien compris que la justice pénale tenant la justice administrative, concrètement, eh bien, puisqu'il s'est soustrait à un ordre d'expulsion, alors le juge pénal peut considérer qu'il est, qu'il doit être jugé, par exemple condamné, alors une peine de prison, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais probablement en tout cas une peine pénale, et avant même d'être expulsé. Donc vous voyez le caractère d'arroseur arrosé. Donc on veut expulser quelqu'un qui est censé montrer la détermination de l'État et de celle de M. Darmanin de se débarrasser des islamistes, et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée ? Un islamiste qui revient et qui est protégé par l'État de droit.
Guillaume Bigot, est-ce que Gérald Darmanin a eu raison de s'acharner sur ce dossier, de la façon dont il l'a fait, surtout ?
Je ne sais pas s'il s'est acharné. Je pense qu'il a trop communiqué dans ce genre d'affaires. Il vaut mieux crier victoire après. Il vaut mieux agir d'abord et crier victoire après. C'est plutôt ça qu'on peut reprocher à M. Darmanin. En fait, M. Iqüissem, il avait raison de s'attaquer à lui parce que ce n'est pas quelqu'un de, encore une fois, d'anodin. C'est vraiment une figure de proue. Il a une influence sur la... on va dire sur l'islamosphère, comme on dit, qui est assez importante. Par ailleurs, on peut aussi se poser la question, c'est peut-être un peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus, un peu, comment, de mauvaise foi, si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose chez l'imam Iqüissem qui intéresse particulièrement M. Darmanin? Des mauvaises langues prétendent qu'en 2014, enfin les mauvaises langues, c'est sont nos confrères de Mediapart, prétendent qu'en 2014, Monsieur Iqüissem aurait participé à un dîner en faveur de l'UMP pour que Monsieur Darmanin, enfin pour soutenir la conquête de la mairie de Tourcoing par Monsieur Darmanin, et qu'à ce moment-là, Monsieur Iqüissem était, disons, à participer, à mobiliser l'électorat musulman pour que Monsieur Darmanin arrive à la mairie de Tourcoing. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux? Il faudrait vraiment avoir mauvais esprit. Que je n'ai pas.
Alors, est-ce que le Maroc va accepter de l'accueillir? Parce que la question se pose également, la question diplomatique. Il y a un travail clairement diplomatique à faire sur ce dossier qu'on pensait finalement gagner. Ce n'est pas le cas.
C'est-à-dire que les relations entre États sont complexes. Les États ont tendance à prendre un sujet et à l'utiliser comme un levier de négociation dans d'autres problèmes. Et on sait qu'entre le Maroc et l'Algérie, plus que de l'eau dans le gaz, si j'ose dire, parce qu'il y a la question du Sahara oriental, il y a d'autres choses, que le Maroc va sans doute chercher à obtenir de la France, qui s'est rapprochée récemment de l'Algérie, des contreparties. Peut-être aussi qu'à cette occasion, parce qu'on voit bien que ça devient un symbole politique, donc ça met dans la difficulté le gouvernement et le ministre de l'Intérieur, le Maroc pourrait en profiter pour demander, je ne sais pas, par exemple, des visas supplémentaires. C'est-à-dire que les visas avaient été réduits ou gelés pour les ressortissants des pays du Maghreb. Je crois que c'est là... La limite a été levée pour la Tunisie. Peut-être que le Maroc va en profiter pour demander plus de visas. Donc, vous voyez, à l'arrivée, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec, pour faire plaisir à M. Darmanin, pour pouvoir lui permettre de mettre en œuvre sa stratégie de communication, on risque d'avoir plus de flux migratoires. Et peut-être que le Maroc, souvent, refuse aussi de reprendre, c'est un autre d'autres sujets, des gens qui sont très problématiques, qui sont un peu des enfants des rues, des délinquants du Maroc, hein, et on ne leur donne pas de laissez-passer consulaire. Donc, comment ça va se payer, cette affaire symbolique, on ne sait pas.
Najwa El Haïté, l'imam Hassan Iqüissem est poursuivi pour... il y a un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre contre lui. Est-ce qu'il peut demain faire de la prison en France avant d'être expulsé?
C'est tout à fait possible, puisqu'on est passé d'une décision administrative...
À une décision judiciaire.
Exactement, à une décision judiciaire. Donc c'est tout à fait envisageable que M. l'imam Iqüissem passe un moment en prison, d'autant que vous le rappeliez, eh bien, pour l'instant, le Maroc a suspendu son laissez-passer pour qu'il quitte, d'une part... Enfin, quand il reviendra en France, eh bien, la France pour aller au Maroc. Donc, autant dire que c'est un feuilleton qui a commencé l'été et qui risque de continuer cet hiver. Notamment pour des raisons aussi juridiques. Ça a été aussi rappelé.
Pour quelles raisons, selon vous, le Maroc a changé de décision, finalement, a changé d'avis sur ce dossier ?
Alors, il y a plusieurs considérations. Tout d'abord, je pense, c'est mon humble avis, c'est qu'il y a aussi cette question des visas, où la France a décidé de restreindre un certain nombre de visas, d'ailleurs, sans faire la part des choses au niveau des profils des personnes qui demandent un visa. C'est-à-dire des Marocains qui souhaiteraient se rendre en France pour aller visiter leur famille, eh bien, c'est de plus en plus compliqué. Même d'un point de vue professionnel, j'en ai eu écho, étant moi-même franco-marocaine. Donc il y a cette question, en effet, de la restriction des visas qui ne concerne pas que le Maroc, qui concerne aussi d'autres pays du Maghreb. Donc il y a cette considération-là, mais aussi il y a une considération qui est d'ordre plus interne. C'est-à-dire que les Marocains ont tendance à penser qu'à partir du moment où un franco-marocain pose des problèmes en France alors qu'il a fréquenté les écoles...
Il n'est pas franco-marocain, il est que marocain.
Oui, mais là, en l'espèce,
Il a refusé la nationalité française quand il avait été
exactement,
proposé.
Mais là, en l'espèce, il a vécu toute sa scolarité en France, il a fréquenté les écoles... Non mais exactement, je ne reviens pas sur le fait que c'est son droit ou pas son droit. Heureusement, oui, c'est son droit. Ce que je veux dire par là, par rapport au Maroc, puisque moi je me positionne par rapport au Maroc, vous avez des Marocains qui disent, mais pourquoi on récupère en fait des... Non mais attendez, j'explique les tensions qui peuvent exister par rapport à cette actualité-là. Donc je vais jusqu'au bout de mon explication. Vous avez donc des Marocains qui pensent qu'à chaque fois qu'un Marocain vivant en France ou né en France qui pose des difficultés dans notre pays, eh bien, à chaque fois, eh bien, il faut le renvoyer au Maroc alors que ces personnes ont fréquenté les écoles de la République française, également ont fait leur vie en France, et d'une certaine manière, le Maroc se dit « mais nous, on n'a rien à voir avec ce développement de la délinquance qui concerne ces personnes-là ». Donc, faut en tenir compte. C'est une opinion qui concerne vraiment la politique intérieure au Maroc.
Guillaume Bigot.
C'est un principe de base que tous les pays récupèrent leurs nationaux. Si je pense que d'ailleurs au Maroc, si des Algériens posent problème, qu'importe qu'ils aient grandi au Maroc, ils seront renvoyés en Algérie. S'il y a des Maliens qui ont posé problème au Maroc, qui sont grandis au Maroc, ils seront renvoyés au Mali. Et les Français, même tarif. Enfin, c'est un principe de base dans tous les pays du monde. Maintenant, je comprends
bien...
Guillaume
Bigot.
Oui, je vous en prie.
Par rapport à ça, moi, je suis d'accord avec vous. Mais
c'est pas avec moi, c'est avec le droit international.
Ce que je veux dire par là, il ne faut pas nier aussi ces considérations-là. Qui aussi font débat au Maroc.
Oui, c'est le problème des Marocains, ce n'est pas notre problème.
On ne peut pas les nier. Guillaume Bigot, terminé. Rapidement.
Ça explique pourquoi...
C'est-à-dire que le Royaume prend en considération aussi cela.
Ce que vous dites, c'est que ça explique pourquoi il y a des réticences.
Voilà.
Ah, d'accord,
exactement.
Mais ça, c'est autre chose. Bien sûr.
Guillaume Bigot, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux rebondissements dans ce feuilleton encore ?
De toute façon, on peut s'attendre à ce que le problème ne soit pas réglé d'une certaine façon au fond, tant qu'on n'a pas rétabli quelque chose qui était vraiment sain. C'est-à-dire que dans tous les États du monde, dans les États démocratiques qui bénéficient de l'État de droit, et c'est heureux, il y a une protection contre l'arbitraire judiciaire, les juges ne font pas ce qu'ils veulent, etc. Mais comme dans toute règle bien construite, il y a des exceptions. Cette exception, c'est l'urgence absolue, c'est quand un individu pose un problème d'ordre public très grave, et jusqu'à présent, jusqu'à il y a 10-15 ans, on pouvait mettre en œuvre une expulsion au nom, si vous voulez, de la raison d'État, on pourrait dire ça comme ça, ça ne posait pas problème, et les juridictions, c'est pas qu'elles se couchaient, c'est qu'elles comprenaient qu'à toute règle, il y a une exception. Maintenant, on ne peut plus faire ça, c'est, disons, une vision extrêmement fanatique de l'État de droit, c'est vraiment le droit contre l'État, qui paralyse l'État, même qui paralyse la démocratie d'ailleurs, ce sont les lois contre les voix, on pourrait dire, et par ailleurs, il faudrait régler le problème au fond, c'est-à-dire que ça relève, à mon avis, de la pénalisation d'une certaine idéologie. On ne peut pas propager une idéologie nazie en France, on ne peut pas propager une idéologie antisémite et raciste. On attend qu'un gouvernement, disons, ait le courage politique de pénaliser l'islamisme radical.
Alors, vous évoquiez, Guillaume Bigot, tout à l'heure, la communication du ministre de l'Intérieur. Il a réagi auprès de l'AFP il y a quelques heures. Désormais, il s'agit d'une coopération judiciaire entre la justice belge et la justice française. À la fin de cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative. Monsieur Iqüsen sera mis en centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d'origine. Est-ce que là encore, il n'a pas été un peu vite en besogne ?
Si, bien sûr, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il voulait, à la fois faire la démonstration qu'il avait la détermination d'agir contre l'islam radical, en tout cas l'un de ses symboles, et qu'il ne, sa main ne tremblait pas, et de l'autre côté, qu'en effet, les mesures administratives étaient assez efficaces. Mais on voit que ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la démonstration inverse qui est apportée de ce qu'il voulait faire. Et je pense que toute l'islamosphère est en train de rire, en fait, de rire de M. Darmanin. Bon, OK, mais de rire de la France et de rire de la détermination de notre République à lutter contre cette idéologie mortifère et de haine.
8h26 sur CNews et Europe 1. Dans l'actualité également, l'adjoint au maire des Mureaux, Boris Venon, vient d'annoncer sa démission. L'élu de 38 ans avoue ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimée. Il raconte aussi avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces de mort, en particulier ces deux dernières années. Écoutez son témoignage, il a pris la parole cette semaine à la fin du conseil municipal.
Depuis 2 ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
Témoignage très fort et courageux hein, qui met en lumière une réalité. D'abord, votre réaction, Guillaume Bigot.
Il y a cette fois-ci quelque chose qui ne peut plus être nié. Pendant très longtemps, il y a eu un soupçon que le phénomène de lutte contre le racisme était un peu... Disons, il y avait une sorte d'émulsion idéologique autour de ce phénomène, parce que le racisme, évidemment, existait toujours en France, mais il était devenu vraiment très, très résiduel. Et il y avait une mobilisation comme un seul homme depuis les années 80-90 pour faire reculer le racisme, au moment même où, fort heureusement, il était devenu crépusculaire, ce racisme. Il y a d'ailleurs un livre remarquable d'un sociologue qui s'appelle Paul Yonnet, qui s'appelle « Voyage au centre du malaise français ». Et il expliquait très bien qu'en fait... Le slogan SOS racisme, c'était tout à fait comparable à SOS baleine. C'est parce que le racisme était en voie de disparition en France qu'il fallait d'une certaine façon, pour une certaine gauche, mais pour la classe dirigeante française, utiliser le racisme comme une feuille de vigne ou un cache-misère politique ou idéologique. Et donc, il fallait absolument tout faire pour le faire revenir. Mon Dieu, qu'allons-nous faire alors que notre raison d'être politique, c'est de lutter contre le racisme, si le racisme a disparu ? Et il y a par contre un racisme qui est malheureusement s'est diffusé, alors en dehors de l'antisémitisme des banlieues très très virulent, à travers l'islamisme, il y a eu un autre phénomène, c'est la montée à bas bruit d'une espèce de racisme anti-blanc. C'était tellement stupéfiant que beaucoup de gens n'ont pas voulu le voir, en disant non mais c'était exagéré, moi j'ai grandi dans des quartiers difficiles quand j'étais gamin, il y avait quand même beaucoup plus de mixité, et donc j'ai... Pendant très longtemps, je n'ai pas cru à ce racisme anti-blanc. Et puis, les illustrations, les explications et les manifestations de ce racisme anti-blanc se sont multipliées. Le déni s'est tout de même installé. Là, je crois que c'est plus possible de dire que cet homme, qui est membre du Parti Socialiste, donc qui est de gauche, qui reste membre du Parti Socialiste, d'ailleurs, je ne sais pas ce que le Parti Socialiste a à en dire, à mon avis, le silence du Parti Socialiste est absolument assourdissant, dit quoi ? Il dit « je quitte mes fonctions d'élu parce que je suis un blanc et donc pas bienvenu dans ma ville. Et deux, en plus, je suis homosexuel et donc je suis victime d'une homophobie maladive. Et on dit l'européen, le blanc, l'homosexuel, dégage, tu n'es plus le bienvenu ici. » C'est un élu de la République, un homme de gauche qui le dit. Donc là, cette fois-ci, ce qui supposément n'existe pas ou ne peut pas exister, et là, je vous renvoie aux réflexions de notre ministre d'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui a expliqué avec bien d'autres que le racisme anti-blanc, par construction, ne pouvait pas exister. Là, on en a une preuve absolue.
Les mots sont très forts. Hein. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. Ça veut dire qu'au Muro, la loi n'est plus dictée par les pouvoirs publics, finalement, Guillaume Bigot ?
Je dirais pas la loi, non. Je dirais qu'il y a une pression sociale, il y a des mœurs, et c'est pas la pression de toute la société, c'est pas la pression de tous les habitants des Muros. C'est la pression d'une, on va dire, d'une espèce de contre-société ultra-violente, qui est une contre-société qui s'adonne au racisme anti-blanc. Peut-être s'adonne-t-elle à la détestation du koufar, de celui qui ne suit pas les règles les plus strictes de l'islam, on ne sait pas, on ne peut pas en rajouter non plus. C'est totalement lié, si vous voulez, c'est un drôle de mélange entre d'un côté un système économique à base de trafic, qui contrôle un territoire, qui promeut une culture de la violence, qui est celle des gangs américains importés en France, et qui en plus a une idéologie racialiste, raciste, et peut-être même une idéologie islamiste. Et ces gens-là n'ont pas le pouvoir, si vous voulez, mais ils exercent une pression violente et manifestement sur toute la société locale.
Najwa El Haïté, votre réaction suite à cette démission ?
Tout d'abord, un constat, les élus dont je fais partie, subissent de plus en plus
de violence.
Ouais. D'agressions verbales, voire physiques. Physique. Souvenez-vous de ce maire d'un village qui souhaitait arrêter le déversement de gravats et qui s'est fait renverser et tuer par un camion. Donc les exemples ne manquent pas, hélas. Alors la loi est intervenue pour sanctionner plus sévèrement ce type de délit ou de crime contre des élus de la République, donc en prévoyant 10 ans de prison et une amende extrêmement importante. Donc je tenais tout d'abord à souligner cela. Ensuite, concernant le racisme anti-blanc, c'est vrai qu'à chaque fois, et Guillaume Bigot a raison, hein, ça crée une certaine polémique et chez certains militants antiracistes.
Il y a un déni.
Et aussi, oui, bien sûr, un déni, parce que pour eux, le racisme anti-blanc, et notamment dans les sciences sociales, vous avez les militants antiracistes, mais même dans les sciences sociales, à l'université, le racisme anti-blanc, dans les travaux, n'existe pas. Et donc ça, c'est aussi une idéologie qui se développe dans les universités. Quand vous avez une militante anti-raciste comme Ouria Boutelja qui dit les oppresseurs et les opprimés ne se valent pas dans le combat contre le racisme, vous voyez la distinction qu'elle fait et qui est extrêmement dangereuse, même par rapport à notre tradition universaliste et républicaine.
8h31 sur CNews et Europe 1, on poursuit nos débats d'en face à Bigot dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Elisa Lukavski.
Europe 1.
La victoire sera à nous, déclaration de Vladimir Poutine hier après avoir officialisé l'annexion de 4 territoires ukrainiens lors d'une allocution sur la Place Rouge, une officialisation qui a suscité un concert de condamnation internationale. Kiev a de son côté promis de continuer à libérer ses terres. La déclaration du président russe a eu lieu quelques heures après une frappe de missile qui a fait au moins 30 morts parmi des civils dans une zone sous contrôle ukrainien près de Zaporijjia. La tempête Ian a touché la Caroline du Sud hier. Les forts vents et pluies se sont abattus sur cet état du sud-est des États-Unis. L'ouragan, rétrogradé en tempête post-tropicale, a aussi touché la Caroline du Nord, provoquant des inondations. Ian devrait s'affaiblir en fin de journée. L'ouragan qui a dévasté la Floride ces 2 derniers jours, faisant 23 victimes, selon un dernier bilan. Et puis si vous êtes amateur d'art et de création contemporaine et que vous êtes à Paris ce soir, eh bien rendez-vous dès 20h pour la 21e édition de la Nuit Blanche. Toute la nuit, des installations sonores, visuelles, des performances, des sculptures et des expositions seront proposées dans la capitale. Vous pourrez par exemple voir une performance sur une balançoire au-dessus de la piscine Molitor, vous rendre un spectacle burlesque au Théâtre du Châtelet ou encore traquer des fantômes dans la maison de Victor Hugo.
Très sympa ça. Merci beaucoup Elisa Lukavski. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Il est 8h33 sur CNews et Europe 1. On est toujours en direct et dans l'actualité également la question de l'insécurité à Nantes. Toujours dans l'actualité, effectivement, de ce samedi, après une semaine compliquée, la mairie de la ville, la maire de la ville, Johanna Roland, reprend la main. Elle doit rencontrer le ministre de l'Intérieur mardi. Elle a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle avait des demandes de moyens très précises à lui faire. Le reportage est signé Mickaël Chailloux.
La maire de Nantes rencontre le ministre de l'Intérieur mardi et veut le faire savoir. Après une semaine où la ville a été secouée par une série de faits divers, Johanna Roland est à l'offensive.
Les Nantais, ils veulent pouvoir se promener tranquillement dans la rue, ils veulent pouvoir rentrer sereinement de leur travail. Nous avons besoin de plus de moyens, de police et de justice, pas simplement pour deux jours, mais dans la durée.
Clin d'œil à la CRS 8, spécialiste des quartiers difficiles, déployée en urgence cette semaine sur une demande express de Gérald Darmanin. La maire socialiste veut une compagnie en permanence à Nantes et une présence policière en continu en centre-ville, notamment de 22h à 6h du matin. Une demande formulée devant les associations de commerçants nantais.
On a pu remarquer cette semaine, évidemment, avec toute cette médiatisation de l'insécurité sur Nantes, qu'il y a une baisse de fréquentation que j'espère le plus temporaire possible. Et j'espère avoir des bonnes nouvelles mardi au retour du ministère de Mme Roland pour que nous ayons des moyens policiers supplémentaires pour qu'il n'y ait plus d'heures blanches.
La ville prendra sa part en termes de sécurité. Pas d'annonce de la part de Johanna Roland, mais un rappel, des recrutements de policiers municipaux sont en cours et fin 2023, il y aura au total 200 caméras de surveillance installées à Nantes.
Guillaume Bigot, la maire de Nantes, attend du ministre de l'Intérieur des moyens supplémentaires. Mais est-ce finalement la solution du problème ?
C'est totalement dérisoire d'imaginer qu'on va s'attaquer uniquement aux effets et jamais aux causes. Et que comme ça, ça va fonctionner. Là, les causes de ce déferlement de violence à Nantes sont au moins double ou triple. Il y a des causes qui sont dues à la politique de gribouille ou à la politique complètement insensée du ministre de l'Intérieur consistant à essayer de démanteler des points de deal partout en France, et en particulier à Nantes, qui ne peut qu'accroître, je dirais, ça ne change rien au trafic de stupéfiants, parce que le trafic de stupéfiants, il va se recréer quelques heures ou quelques jours après à quelques dizaines de mètres. Donc ça ne change rien. Donc c'est vider la mer avec une petite cuillère. En revanche, si, ça a un effet. Ça a un effet d'augmenter considérablement les règlements de compte et la violence entre bandes rivales. Ça, c'est sûr. Donc si vous voulez, il y a le trafic de stupéfiants, c'est un problème en tant que tel, mais il y a la violence que génère le trafic de stupéfiants. Et la politique du ministre de l'Intérieur, elle ne fait qu'accroître la violence que génère le trafic de stupéfiants sans régler le problème du trafic de stupéfiants. D'autant plus qu'ils font exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas peur de se prendre un coup de fusil, ils vont les menacer de quoi ? D'un stage de citoyenneté ou de 3 ou 4, enfin je caricature à peine, mais il y a un tel laxisme systémique dans la magistrature que finalement, on va pas, ils vont très peu écoper de peines de prison ferme. Mais même les peines de prison ferme, des gens qui exposent leur vie pour gagner un point de deal, ils n'en ont pas peur. En revanche, qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement ? Grosso modo, ne cesser de poursuivre des gens qui consomment du cannabis, qui consomment des stupéfiants. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont insérés socialement souvent et qui, eux, seraient extrêmement sensibles à des peines de prison ou à des poursuites pénales, on ne les poursuit plus. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est une cause. Deuxième cause, elle est à court terme. 700 migrants ont été accueillis par la ville de Nantes ces dernières années. 700. Troisièmement, c'est toute la population nantaise. Il y a eu un qui a été transformé au cours de ces dernières années. Il y a une étude intéressante de France Stratégie qui est sortie à ce sujet. En 1990, la part des immigrés extra-européens dans les 25-50 ans représentait 5% de la population nantaise, 5%. En 2017, c'était monté à 12%, et on est maintenant, dans certains quartiers de Nantes, à 32%. Voilà ce qui s'est produit, et on sait bien que cette population, alors on va dire, oui, mais pas toutes, et là on rejoint le sujet précédent, comme si il fallait d'une certaine façon prévenir je ne sais trop quel racisme imaginaire et fantasmagorique, parce que personne ne fait l'amalgame. Mais si on en est à prévenir par avance qu'il ne faut pas faire l'amalgame, c'est qu'on part du principe que dans la tête des gens qui nous écoutent, il y aura un amalgame qui sera fait. Il n'y a aucun amalgame qui est fait, simplement on est maintenant obligé de dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation de la délinquance parmi les migrants d'une part, qui souvent arrivent en plus sans travail dans des conditions assez apocalyptiques dans leur pays, parce que c'est pas seulement parce qu'ils sont soudanais, érythréens, marocains, etc., pas du tout, ou algériens, pas du tout. C'est aussi parce que dans leur pays, ce sont des gens extrêmement dysfonctionnels. On n'importe pas des médecins, si vous voulez. On n'importe pas des professeurs d'université, on importe des enfants des rues ou des gens violents. Et après, ça pose problème. Comme c'est étrange.
Guillaume Bigot, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la mairie de Nantes découvre ces problèmes aujourd'hui, alors qu'on nous dit qu'ils sont là depuis une dizaine d'années ?
Et parce que toute la classe dirigeante fait semblant de découvrir ces problèmes. Et on vous répond, oui, mais alors on va mettre plus de policiers, on va déplacer, on va créer des unités spécialisées. Tout ça va coûter encore plus d'argent. La vérité, c'est qu'on ne veut pas attaquer à la racine le problème, c'est-à-dire plutôt que de traiter les problèmes, une fois qu'ils sont là, il ne faut peut-être pas les faire venir. Pour le coup, on n'a absolument aucun besoin de faire venir des centaines de milliers de gens qui vont avoir un comportement dysfonctionnel en France tous les ans. Ce n'est pas possible. Mais on ne veut pas s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est que compte tenu des traités qu'on a signés et de la construction européenne qui doit passer en fait toute autre priorité, on doit maintenant faire avec ça, puisque aujourd'hui, dans l'état actuel de l'architecture juridique, ce n'est pas l'État qui fait la politique migratoire, c'est le migrant qui fait sa migration tout seul.
Najoua El Haïté, pourquoi la municipalité de Nantes a laissé les choses s'envenimer durant toutes ces années ?
Alors moi, je dirais que la maire de Nantes est tenue aussi par sa majorité municipale. Vous avez des Verts et donc des gens d'extrême gauche, enfin des élus d'extrême gauche. Et d'une certaine manière, elle est pieds et mains liés, idéologiquement parlant, par cette majorité-là qui estime que la police municipale, par exemple, n'a pas à être armée, que la police municipale doit strictement rester dans ses missions. Et pourquoi je dis ça ? Parce que contrairement à ce qu'elle a dit, et je rejoins là mon confrère Monsieur Thibault de Montbrial, qui dit qu'à un moment, il faut aussi qu'elle prenne ses responsabilités ouais. en tant que maire. Elle doit aussi assurer, en tant que maire, la sécurité publique, la tranquillité publique. Vous savez, il y a des mairies, et j'en fais partie, où la sécurité est une priorité. Et donc, vous avez des mairies, comme celle dans laquelle je suis élue, où il y a une vraie intervention du maire pour armer la police municipale, leur donner des moyens, et pas faire la distinction.
Vous avez complètement raison, mais c'est pas la mairie qui fait la politique.
Non, mais attends, j'y viens. Je disais qu'elle est tenue idéologiquement par sa majorité municipale. C'est ce qui fait aussi qu'elle n'est pas très interventionniste sur ces questions-là. Après, bien sûr que je vous rejoins, Guillaume Bigot, quand vous dites qu'il y a des filières migrantes. Moi, je me souviens qu'en 2015, elle a eu un discours, c'est tout à son honneur, très généreux, d'accueil dans le cadre de cette crise migratoire, vous en souvenez. Donc, discours très généreux où elle souhaitait accueillir un certain nombre de migrants qui fuyaient des États en guerre, etc. Sauf que quand vous faites ce type de discours, eh bien, il faut accompagner. Eh bien, ces migrants sont venus gonfler des bidonvilles, entre guillemets, qui existent dans la ville et notamment en centre-ville. Et donc, avec les vols, les agressions sexuelles qui s'accompagnent. Donc, moi, je veux bien, et elle a raison, bien sûr que la sécurité, c'est une mission régalienne de l'État. Mais attention à se laver les mains et dire, moi, en tous les cas, je suis maire, la sécurité, ça relève pas de la mairie. C'est un peu trop facile, je dirais.
8h42 sur CNews et Europe 1. Alors Gérald Darmanin a attendu à Nantes mardi. En attendant, il est en Guyane. Il a participé hier avec Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal aux conclusions des assises de la sécurité convoquées par la collectivité territoriale de Guyane. L'objectif est de trouver des réponses à la violence qui perdure dans le département. Le ministre de l'Intérieur qui a promis un envoi massif de renforts de policiers et de douaniers. On l'écoute.
Nous avons décidé le renvoi ici en Guyane de 25 officiers de police judiciaire, dont 18 gendarmes qui viendront dès la semaine prochaine. Et nous renforcerons considérablement aussi l'antenne au FAST, j'en parlerai sur le sujet de la drogue, par une dizaine d'enquêteurs supplémentaires.
Voilà, Gérald Darmanin, donc, hier en Guyane. Guillaume Bigot, on a l'impression qu'en ce moment, le ministre de l'Intérieur distribue des renforts de police un peu partout dans ses déplacements.
Bah oui, c'est du Darmanin dans le texte et en image même, c'est-à-dire un déplacement, une déclaration, un coup de menton, et puis il y a un autre fait divers qui va survenir, donc il va se déplacer ailleurs, il va refaire la même chose, et ainsi de suite, au point où ça donne tellement le tournis qu'on oublie Là, par exemple, à Saint-Ouen, il y a une, c'est un des cœurs du trafic de stupéfiants dans une cité que je connais bien, à Saint-Ouen. Les points de deal font 30 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et M. Darmanin, pareil, a fait un déplacement, caméra, mobilisation de la presse, coup de menton. Regardez, j'ai démantelé les trafics de stupéfiants, etc.
Alors, on le voyait à l'écran, il a détaillé justement.
Moi, je veux bien, sauf que là, en l'occurrence, les habitants de cette cité appellent au secours. C'est-à-dire que c'est quelques mois après que M. Darmanin ait dit que les problèmes étaient réglés. Donc, de toute façon, la stratégie, c'est vraiment de courir partout, de faire tellement de volume, tellement de bruit, tellement de mouvements qu'on le perd d'une certaine façon, c'est zébulon. Donc ça fait un effet de diversion. En fait, on se dit, au moins dans ce gouvernement, il y a quelqu'un qui prend la sécurité à bras-le-corps, au moins il a l'air déterminé, il parle clairement, il n'a pas peur, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il joue un rôle dans ce dispositif. Il joue un rôle justement de diversion. Plus il s'agite, plus il s'époumonne, plus il promet des moyens, et moins les problèmes sont réglés à la racine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention d'avoir des peines pénales plus lourdes. Il n'y a aucune intention et aucune place de prison supplémentaire qui a été construite depuis 2017, et on les attend toujours. Et il n'y a pas d'intention non plus de dénoncer des traités, de sortir des traités et de rétablir des frontières. Ça n'existe pas. Donc M. Darmanin pourra, à mon avis, il va avoir beaucoup, beaucoup de boulot devant lui dans ces mois et ces années à venir. Pour terminer, je pense que ce qui est fondamental à comprendre, et là on le voit en Guyane, mais c'est partout pareil sur le territoire, même si en Guyane et en Martinique, dans la Caraïbe, il y a une violence qui est encore plus forte. C'est vraiment la violence type de celle qu'on voit en Amérique du Nord. Les gangs sont beaucoup plus durs, beaucoup plus armés, etc., pour des raisons locales. Mais grosso modo, il faut bien que les gens comprennent que, grosso modo, la société ne tient que parce qu'il y a aussi une sorte de peur du gendarme et du policier. C'est totalement, matériellement impossible de mettre des gendarmes et des policiers partout. Donc, grosso modo, si la peur du gendarme et du policier ne fonctionne plus, eh bien, de toute façon, cette violence va se propager partout. Et elle ne fonctionne plus parce qu'encore une fois, les magistrats ne punissent pas, parce que les lois ne sont pas assez punitives, et parce qu'il n'y a pas de place de prison, et qu'on fait venir par centaines de milliers chaque année des gens qui potentiellement seront de nouveau délinquants.
Alors, pas de place de prison supplémentaire, vous nous le disiez, mais 25 postes d'officiers de police judiciaire avec des arrivées dès la semaine prochaine. Les effectifs de l'office anti-stupéfiants seront portés à 20 agents, soit 7 supplémentaires. Une antenne du RAID sera installée dans les prochains mois à Cayenne, composée de 13 policiers. Enfin, un 7e escadron de gendarmerie mobile, soit 70 gendarmes supplémentaires, sera également pérennisé. Ce sont des moyens considérables quand même.
Oui, c'est du vélo d'appartement, c'est du bougisme. Parce que finalement, à chaque fois que vous faites ça, le problème enfle de manière encore plus importante. Donc si le problème augmente de 100 et que vous augmentez la réponse de 10, vous donnez l'impression que vous passez de 0 à 10, vous faites quelque chose, mais en attendant, il y a eu une augmentation d'un facteur 100 de l'autre côté. Vous voyez ? Donc grosso modo, si vous n'agissez pas sur les causes, on répète, s'il y a toujours un sentiment d'impunité, ça ne sert à rien de renforcer les forces de l'ordre pour qu'elles défèrent des gens devant des tribunaux qui ne vont pas les sanctionner. Et ils ne vont pas les sanctionner. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils ne sont pas d'accord pour les sanctionner. Ils sont assez, à mon avis, ils ont une idéologie très 68arde, beaucoup, pas tous, beaucoup. Deuxièmement, parce que les lois ne sont pas assez répressives, les peines de prison ne sont pas assez fortes. Et troisièmement, parce qu'en plus, il n'y a pas de place de prison. On le répète. Et comme par ailleurs, vous faites venir, je répète, tous les ans des centaines de milliers de personnes en plus qui sont vraiment, d'une certaine façon, de la chair à canon pour ces... ou de la chair à deal ou à trafic pour ces réseaux de délinquants, vous ne réglez pas le problème. C'est le tonneau des Danaïdes, si vous voulez.
D'ailleurs, on va aller chercher où ces renforts ? Est-ce qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul ? C'est un peu ça l'histoire ?
Ça a été le cas avec la police, clairement avec la police judiciaire, avec cette unité absolument d'élite de la police judiciaire qui a été affectée à des tâches qui sont des tâches non pas subalternes. C'est important, tout est important, si vous voulez. Mais grosso modo, quand vous avez des cancérologues, des gens qui sont des très grands spécialistes, qui suivent, disons, des criminels de haut vol, qui sont capables pendant des années d'enquêter avec un savoir-faire, avec une mémoire administrative, avec une technicité pour démanteler des réseaux de très grande criminalité, et que ces gens-là, vous les débranchez, vous leur demandez de traiter des rhumes, parce que le cancérologue, vous lui demandez de traiter des rhumes. Voilà, bon, c'est ce qu'on fait, mais... Il n'y a rien d'assez beau pour la gloriole médiatique de M. Darmanin, j'imagine.
Najwa El Haïté, Gérald Darmanin qui vole au secours de la Guyane à coups de renforts policiers, de renforts de douaniers. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est indispensable puisque la Guyane est victime d'une violence endémique.
C'est indispensable, mais c'est la solution, selon vous ?
C'est une des solutions, c'est une réponse. Donc les moyens sont absolument nécessaires, tant en matière de justice, puisqu'on annonce la création de postes de juges, mais également la création de postes dans le domaine de la, dans le secteur plutôt de la police judiciaire. Oui, c'est indispensable, mais le problème est tellement complexe, et vous le rappeliez, c'est-à-dire que vous avez en Guyane une violence endémique qui dure très longtemps, depuis plusieurs années. Alors, vous avez des trafics d'armes, des trafics également de drogue et une paupérisation,
oui, faut pas nier, qui...
et une paupérisation extrêmement importante de la population. Vous avez un nombre de bénéficiaires du RSA qui explose. Vous avez des jeunes qui subissent de plein fouet le chômage à hauteur de 40%. Et vous savez, leur projet économique, c'est quoi? Eh ben, c'est de traficoter, puisqu'il y a des problèmes de mules, ce qu'on appelle les mules. D'ailleurs, vous avez entre 20 à 30 mules qui, tous les jours, quittent Cayenne et arrivent à Orly, à l'aéroport d'Orly. Et autant vous dire qu'on ne peut pas laisser ces jeunes se dire « Eh bien, mon avenir économique, c'est de traficoter et de devenir une mule. » C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a un volet sécuritaire auquel il faut répondre, c'est indispensable. Mais à côté de ça, il faut également créer des emplois. Créer des emplois en Guyane, donner
vous inversez les causes et effets. C'est précisément parce qu'il y a des points de stup à 30 000 euros par jour que de toute façon il ne peut pas y avoir de développement économique. Et c'est pas
mais
parce
c'est
qu'il n'y a pas.
Donc ça veut dire que
c'est pas parce qu'il n'y a pas de développement économique qu'il y a ce trafic.
Oui,
c'est,
oui, si mais, voulez, Didier,
la mais pour arrêter ces points de stup, il faut des renforts supplémentaires.
Mais bien sûr, mais c'est indispensable. Et puis à côté de ça, vous avez ces trafics de stupéfiants. Mais à côté de ça, vous avez aussi une immigration massive. Vous avez 1245 mètres carrés de frontières avec le Brésil et le Suriname. Et là aussi, c'est très complexe à contrôler. Puis au regard des relations que nous avons avec le Brésil, qui ne sont pas très fluides, ça complexifie aussi les choses. Donc vous voyez, les réponses doivent être multiples, sécuritaires, mais également économique.
8h51 sur CNews et Europe 1. Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des 4 régions ukrainiennes qui ont eu lieu lors de ces référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union européenne, où les réactions se sont multipliées ces dernières heures entre fermeté et menace. On écoute le sujet de Yann Effelé et on en parle juste après.
Vladimir Vladimirovich Poutine.
Une signature suivi d'un concert de condamnation internationale. Vladimir Poutine a ratifié les documents rattachant à la Russie 4 régions ukrainiennes occupées. Réaction immédiate du président ukrainien, il signe une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. L'OTAN qui dénonce la plus importante tentative d'annexion depuis la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen. Pour les alliés, ces référendums ne changent rien.
Cela reste la guerre brutale d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et cela ne change pas notre détermination à soutenir l'Ukraine.
L'Ukraine, elle, s'engage à libérer et récupérer toutes ses terres. Les États-Unis promettent leur soutien et menacent.
L'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque centimètre carré. Donc, monsieur Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, chaque centimètre.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenté une nouvelle fois dans la soirée de condamner l'agression russe. Une nouvelle fois sans succès. La Russie a posé son veto. La Chine et 3 autres membres se sont abstenus.
N'est pas adopté.
Alors Guillaume Bigot, on l'a vu, le monde entier condamne cette annexion. Ça ne semble finalement pas vraiment perturber Vladimir Poutine.
Le monde entier, pas tout à fait, non, mais une partie du monde occidental, disons. Et un des propos de M. Poutine, c'est précisément d'expliquer aux Occidentaux que nous sommes que précisément le monde n'est plus l'Occident. Voilà ce que nous, on continue à faire, en fait. Mais par ailleurs, et ça, c'était peut-être la partie du propos de M. Poutine qui était la plus convaincante. Le problème, c'est qu'il tombe dans ce qu'il dénonce lui-même, ce qu'il dénonce l'impérialisme occidental. Il dénonce le fait que les États-Unis peuvent sans aucun problème s'essuyer les pieds sur la Charte des Nations Unies et agresser n'importe quel pays souverain parce qu'il y a eu une petite intrigue de couloir au Sénat américain et donc ça débouche sur la mort de 200 000 civils et le bombardement et l'écrasement d'un pays souverain comme l'Irak. Ça pose. Et ça, M. Poutine a raison. Le problème, c'est que la Russie fait la même chose en Ukraine. Donc, c'est là où on ne comprend plus très bien. Et peut-être, effectivement, là, vous avez raison, le monde entier ne le suit plus. Ensuite, ce que fait M. Poutine, c'est un piège. C'est-à-dire qu'il tend un piège à ses adversaires occidentaux, aux États-Unis d'abord, en leur disant, écoutez, maintenant, ça fait partie intégrante du territoire de la Fédération de Russie. La doctrine nucléaire russe précise que l'usage d'armes nucléaires est tout à fait légitime pour nous si le territoire souverain de la Fédération de Russie est envahi. Donc, à partir du moment où ces territoires deviennent la Fédération de Russie, est-ce qu'il va, oui ou non, mettre à exécution sa menace ? Maintenant, il s'est peut-être aussi piégé lui-même, mais il faut faire attention parce que dans tout bluff, à un moment, le bluffeur doit abattre ses cartes.
Alors, il est 8h54 sur CNews Europe 1. Je suis désolé, on va devoir mettre fin à cette émission. Je vais vous remercier tous les deux. Merci Guillaume Bigot, politologue, d'avoir été avec nous. Najwa El Haïté, avocate, merci à vous. Vous avez un petit, on ne le voit pas sur Europe 1, mais vous avez un petit pin's sur la veste. Guillaume Bigot l'a mis également. Est-ce que vous pouvez nous dire en 20 secondes ce que c'est ?
Alors, en 20 secondes, c'est un soutien à l'Arménie parce que, comme vous le savez, l'Azerbaïdjan mène une offensive meurtrière contre l'Arménie. Donc, il s'agit pour nous de nous sensibiliser à cette tragédie parce qu'il s'agit d'une tragédie où, hélas, l'Union européenne est bien silencieuse.
Merci beaucoup, Najwa El Haïté, d'avoir été sur ce plateau. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end continue. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Enaïg Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
Merci Mickaël Dorian. À demain aux alentours de 8h10 sur Europe 1. Et bonjour Frédéric Taddeï.
Bonjour Enaïg.
Quel est le programme aujourd'hui ?
Giorgia Meloni est-elle fasciste, néo-fasciste, post-fasciste ? Je vais poser la question à François Bousquet, lui-même rédacteur en chef d'Éléments, la revue de la Nouvelle Droite. Et puis Adrien Quaternin, c'est Julien Bayou, obligé de quitter leur fonction politique pour des accusations de violence conjugale. Là, c'est la sociologue Irène Théry qui va nous éclairer. Elle vient de publier « Moi aussi ». Et enfin, je recevrai Jean-Paul Rouve qui est en train d'inventer quelque chose de nouveau au théâtre. Ah. Il interprète des chansons françaises, mais sans les chanter.
Ah bon ? Ah bah, on a hâte de voir ce que ça donne. Merci Frédéric, on vous retrouve juste après le journal de 9h. À tout de suite.